Le docteur Jacques Labesca est parti en reportage pour Radio Éthique sur l'île de Léron. Il y a fait de sympathiques et étonnantes rencontres.
Bonjour, nous sommes au pied du phare de Chassiron, au niveau de l'île de Léron, dans une zone qui est normalement découverte par la marée, à marée basse, et qui est comblée par la marée haute, évidemment. Et nous sommes en compagnie de Jean-Baptiste Bonin, qui va nous dire exactement ce qu'il fait.
Oui, donc bonjour. Donc moi, je suis coordinateur de l'association IOD, donc qui agit sur Marraine au Léron depuis une dizaine d'années pour la préservation de l'environnement local et pour le développement durable, en fait, du territoire.
Alors, iode, pourquoi? Parce que l'air iodé?
Oui, notamment, mais aussi parce que on s'appelait au début île de Léron, développement durable, environnement, IODDE. Donc c'est iode avec 2D.
Et alors, à part un beau patronyme, vous avez quoi?
Actuellement, on est une association généraliste, en fait, qui se préoccupe un peu de tout ce qui a trait au développement durable du territoire. Mais c'est vrai que depuis 10 ans, on est un peu plus réputé sur une question particulière qui est la question de la pêche à pied récréative sur nos côtes, qui est un loisir qui est très pratiqué, qui est de plus en plus en vogue, on va dire, et qui s'adresse à beaucoup de novices, de gens qui découvrent un petit peu le bord de mer, et donc qui n'ont pas forcément une culture des bonnes pratiques, des bonnes espèces, qui ne connaissent pas forcément très bien la réglementation. Et c'est tout ce travail-là qu'on a essayé de mener pour expliquer et pour rendre cette activité durable et ne pas la laisser, on va dire, aller elle-même dans ses propres obstacles.
Alors vous avez interdit la pêche sur l'estran alors ?
Pas du tout, au contraire. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'éviter les interdictions, c'est-à-dire que les pêcheurs soient suffisamment raisonnables pour garder les milieux en bon état, les gisements en bon état, pour que cette activité puisse perdurer.
Comment pratiquement ça vous avez fait alors ? Qu'est-ce que vous avez monté comme opération ?
On a mené 3 opérations de front, c'est-à-dire une opération d'abord de diagnostic scientifique, de savoir où sont les pêcheurs, combien ils sont, qu'est-ce qu'ils pêchent concrètement, d'où ils viennent, quelles sont leurs activités, etc. Une action aussi scientifique d'étude sur l'estran, dans quel état il est avant et après la pêche, pour voir un peu l'impact de l'activité. Un deuxième volet qui était un volet pédagogique, c'est-à-dire qu'on a essayé d'expliquer aux gens la réglementation, de la mettre en place, d'expliquer aussi aux offices de tourisme localement comment l'expliquer eux-mêmes aux pêcheurs pour que chacun connaisse bien les enjeux un peu de préservation de ces milieux. Et puis un travail de concertation entre les différents acteurs, les pêcheurs professionnels, les récréatifs, les associations d'environnement, les élus, les services de l'État, pour partager un peu les données scientifiques et proposer des actions de gestion de ces espaces-là qui sont quand même des milieux très riches au point de vue biologique.
Ça fait maintenant 10 ans que vous faites ça, vous m'avez dit tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce que vous avez noté en 10 ans ?
En 10 ans, on a quand même des résultats qui sont encourageants, c'est-à-dire que d'un côté, on voit l'évolution de la pêche à pied qui continue à évoluer vers une pêche de loisir, donc qui s'adresse à de plus en plus de monde. Mais d'un autre côté, on voit quand même un meilleur respect du milieu, avec des gens qui ont maintenant compris qu'on mettait jamais un rocher d'estran à l'envers, qu'on ne pêchait pas des crabes minuscules parce qu'il y avait rien.
Pourquoi on met pas un rocher à l'envers?
On met pas un rocher à l'envers parce qu'un rocher d'estran, et c'est pas du tout comme une pierre, on va dire, de montagne ou de milieu terrestre. Un rocher d'estran, il y a à peu près 80 espèces en moyenne autour. Et il y a des espèces qui ont besoin de lumière, comme les algues et comme tous les brouteurs d'algues. Et il y a des espèces qui ont besoin, au contraire, d'ombre, d'humidité, qui sont sous la pierre. Et nous, ici, on est sur du calcaire, donc il y a même des espèces qui vivent à l'intérieur du rocher, dans des trous. Et si vous mettez tout cet environnement à l'envers, vous allez avoir des espèces qui vont brûler au soleil, des espèces qui vont mourir de manque de photosynthèse, et tout ça va crever en grande partie. Donc un rocher mis à l'envers, il perd la moitié ou les 3/4 de sa biodiversité par ce simple geste. En une seconde, vous pouvez détruire un environnement, multiplié par le nombre de pêcheurs et le nombre de rochers, ça faisait des dégâts énormes. Alors faut laisser à chaque fois les rochers à l'endroit, même quand on va chercher des crabes qui sont dessous.
Et le résultat est favorable pour l'homme comme pour l'animal ?
Bien sûr, d'une part, vous pouvez comme ça pêcher sans détruire le milieu, donc vous pouvez éviter ces fameuses interdictions qui pendonnaient un peu de ces activités qui se développent. Mais vous allez aussi passer un meilleur moment parce que vous n'avez pas détruit l'environnement. Et pour pêcher des crabes, un bel environnement est quand même plus favorable, donc vous allez retrouver des étrilles ou des crabes que vous cherchez plus facilement dans des endroits qui sont en bon état. Donc c'est l'intérêt de tous, et le fait de laisser un endroit, un rocher, ne nuit pas du tout à la qualité de la pêche. Au contraire, vous allez pêcher encore mieux si vous apprenez à bien pêcher.
Tout le monde est gagnant-gagnant alors, et je dois reconnaître pour l'avoir goûté que un ours à manger frais, c'est bon.